la dernière partie de la Grande Table, Caroline Brouet.
Merci Antoine Mercier. Le tribunal administratif de Lille n'a finalement pas rendu sa décision hier quant au démantèlement d'une partie de ce qu'on appelle la jungle de Calais. Ce n'est que partie remise. Mais cette menace de destruction du camp a provoqué une levée de boucliers de la part d'associations, d'artistes, d'intellectuels qui ont signé lundi un manifeste contre l'expulsion de cette jungle et pour une solution politique digne. Un peu plus au sud, vers Nantes, le projet de construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes continue de faire des vagues. Dimanche, Mediapart a publié un appel signé par une quarantaine de personnalités, écrivains, chercheurs, militants, qui appellent le gouvernement à ne pas construire l'aéroport au nom de la protection du climat et du respect des engagements de la COP21. On pourrait s'interroger sur cette recrudescence de pétitions et d'appels comme moyen de réengagement des intellectuels, mais plutôt que de gloser sur ce sujet, nous avons préféré regarder ailleurs. Car derrière Calais et Notre-Dame-des-Landes, c'est deux des plus grands sujets de société du moment qui s'ancrent dans des réalités quotidiennes, à savoir l'écologie d'un côté et les migrations de l'autre. Et derrière cela, deux conceptions de la société qui s'affrontent. Bref, c'est de la politique. Il est d'ailleurs intéressant aussi de s'interroger sur le caractère géographique de ces nouvelles luttes. Il y a 40 ans, sur le plateau du Larzac, se jouait un vaste mouvement de désobéissance civile. Il y a quelques années, des mouvements d'ampleur sont partis de place dans des grandes villes. En quoi l'espace est-il politique ? En quoi l'occupation des lieux fait-il aussi office de manifeste ? Bref, tous ces lieux de politique, ces nouveaux lieux de politique vont nous occuper pendant la demi-heure qui vient, en compagnie de deux invités aujourd'hui exceptionnellement. Sébastien Thierry, bonjour.
Bonjour.
Politologue, enseignant à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais. Vous êtes le coordinateur des actions du pôle d'exploration des ressources urbaines, appelé familièrement le PERU. Vous allez nous en dire bien sûr quelques mots. C'est une association qui est présidée par le paysagiste Gilles Clément. Notre deuxième invité aujourd'hui est Jade Lingard, journaliste à Mediapart qui suit depuis très longtemps toutes les questions relatives, notamment à l'environnement et à l'écologie. Et c'est vous qui avez publié cet appel il y a quelques jours dont je parlais dans cette introduction. Juste un mot sur le PERU, Sébastien Thierry, avant de commencer. C'est quoi le PERU exactement ?
C'est quoi le PERU ? C'est une association, oui, c'est un jeu de mots foireux, c'est un état second. C'est une manière aussi de se présenter sous différents masques pour entreprendre et appréhender la réalité un peu autrement. Voilà, c'est essayer de déjouer ce qui est attendu et d'essayer de tracer le chemin à de l'imprévu, à l'inouï et à autre chose que ce que l'on a l'habitude de voir et de se répéter sans cesse. Voilà, donc c'est une tactique
d'occupation des sols
voilà.
et des esprits. Oui. Mais précisément, qu'est-ce que fait le PERU ? Pas seul d'ailleurs, mais en concertation d'abord avec les habitants sur place, les réfugiés, mais aussi d'autres associations. Que fait le PERU à Calais ? Qu'est-ce que vous voyez, vous, Sébastien Thierry, de ce qui se passe à Calais.
La question, c'est bien de voir, effectivement, de regarder de ce que fait le PERU. C'est la première le premier des enjeux, c'est de considérer autrement, de porter son attention, développer une politique de l'attention à ce qui effectivement a lieu, à ce qui fait lieu, essayer de rénover le répertoire des savoirs afin de éventuellement rénover le répertoire des actions. Donc, ce que l'on fait, on mobilise de nombreux amis, des écoles beaucoup, puisqu'on travaille beaucoup aussi l'interface avec les écoles d'archi, de sciences politiques, etc. Et on essaie de développer pour l'heure un programme d'attention, de rénovation, d'essayer d'explorer ce qui a lieu, ce qui fait lieu, en vue très prochainement d'activer des processus de projet, essayer de penser et de mobiliser autrement les professionnels de l'architecture, de l'urbanisme, etc. Sur des terrains qui sont jamais appréhendés comme des situations de projet, qui sont souvent appréhendés comme des situations de rejet. Donc comment faire projet à Calais, sur la jungle, sur la ville elle-même, à l'interface entre...
Vous dites jungle, vous?
Oui, je dis jungle parce qu'on dit jungle, parce que les personnes
sur
disent
place.
Jungle. Oui, bien sûr.
Et comment vous faites alors à Calais, par exemple, que vous avez fait comme action concrète ?
Concrètement, on est sur le terrain constamment à décrire. Ça, c'est nous produisons des actes de documentation. Pour l'instant, on réunit un certain nombre de pièces à conviction. On fournit un dossier qu'on va rendre public très prochainement à la Cité de l'architecture du patrimoine, où on est effectivement invité dans une expo à la Biennale d'architecture de Venise. Et à Bordeaux, à Arc-en-Rêve, qui vont être pour nous des lieux de production, de publication et de projection et de mobilisation de la profession sur, effectivement, la question que faire. Donc, d'où le titre d'une tribune que l'on a publiée récemment, Réinventer Calais.
Récemment, c'est aujourd'hui dans Libération.
Absolument.
Avec Antoine Aignon.
Voilà.
Qui est une lettre fictive qu'aurait pu écrire la maire de Calais.
Oui.
Vous avez mis votre plume au service de la politique qui n'est pas faite, on va dire.
Oui, mais qui va être faite. C'est-à-dire qu'on ne milite qu'on défend le réel. Je veux dire que ce réel-là, je veux bien que les pelleteuses...
Mais c'est quoi le réel pour vous ?
Eh bien, effectivement, il est à recomposer, ce réel.
Non, mais qu'est-ce que vous voyez vraiment là-bas ?
Oui, pardon. Ce que l'on voit, c'est une cité en puissance, c'est une urbanité folle et vraiment, vraiment, vraiment inouïe. C'est une boîte de nuit, des théâtres, des écoles, une quarantaine de restaurants, une quarantaine d'épiceries. C'est des liens invraisemblables qui ont lieu entre les...
Dans la jungle, hein, vous parlez pas de Calais, là.
La jungle est dans Calais, et Calais est dans la jungle. C'est aussi une altération des catégories, justement, on ne sait plus qui est qui, des Anglais vivent là, une Europe entière est active, l'auberge de jeunesse de Calais, qui comprend 160 lits, est quotidiennement, enfin tous les soirs, prise d'assaut depuis le mois d'octobre. C'est absolument phénoménal ce qui a lieu. Et malgré cela, la croûte des récits et médiatiques empêche effectivement que ceci advienne et que l'on se rende compte effectivement de ce qui a lieu, de ce qui se construit là-bas. Nous, notre parti, c'est effectivement suivre... Voilà.
Vous avez l'air de vanter un petit peu cette situation.
Vante cette situation parce qu'il n'y a aucun autre moyen de penser des politiques publiques qu'à partir de ce qui s'affirme et ce qui s'invente. C'est-à-dire qu'on est accablé par des postures, des positions d'affliction, d'indignation, etc. Et c'est pas à partir de cela qu'on va réinventer le monde qui s'invente et qui a lieu là. Donc effectivement, vantons, et ça c'est effectivement un aveuglement volontaire d'une certaine manière, il y a effectivement du désastre, il y a tout ce qui n'est pas le désastre, comment faire de la place à ce qui n'est pas le désastre, comment faire de la place à ce qui s'invente et ce qui se construit, à cette Europe-là qui est active, qui est vraiment, vraiment aux antipodes de toute l'Europe que vous avez décrite dans votre journal. Et voilà, comment on repart de ça et comment ceci, on fait de cela un point de départ pour des politiques à venir.
Pour que les choses soient très claires, Sébastien Thierry, vous êtes donc de ceux qui vous opposez avec, par exemple, les philosophes Jacques Rancière et Étienne Balibar ou le sociologue Éric Fassin qui ont signé cet appel contre l'expulsion de la jungle de Calais. Vous êtes de ceux qui vous opposez à la destruction d'une partie du camp. Au nom du fait que ce qui se passe dans le camp, ça n'est pas simplement des bidonvilles qui seraient des lieux de non-vie pour les migrants. Mm-hmm. Pour vous, il se passe d'autres choses dans ces endroits-là, de solidarité, de vraie vie quotidienne, qu'il faut préserver. Mais pour que les gens comprennent bien, vous n'avez pas non plus, je pense, l'intention que les gens restent dans les bidonvilles, parce qu'il se passe sans doute des choses de solidarité, mais aussi des choses très, très négatives dont on entend quand même parler.
Absolument.
Qui sont pas fausses. Enfin, ni bulldozer, ni bidonville, on pourrait dire ça, comme
oui,
ça,
non,
non, faut pas que les gens vous comprennent mal, quoi.
Oui, bien sûr, il faut essayer de comprendre qu'on puisse s'échapper de cette dichotomie, c'est soit le bidonville, soit... Non. Il y a un petit mot en trop dans votre présentation, c'est préserver. Nous sommes, vous avez bien rappelé que placé sous l'égide d'un président, Gilles Clément, qui est un paysagiste, inspiré et qui nous inspire fortement et avec lequel effectivement on considère que la ville se cultive. D'accord. Donc, il ne s'agit pas de préserver, il s'agit effectivement de cultiver ce qui a lieu, cultiver ce qui fait lieu et de cultiver cette urbanité en puissance qui a lieu. Donc oui, le point de départ, c'est effectivement cela, non pas. Et considérant aussi, faisons un tout petit peu d'histoire, ayons un petit peu de mémoire, que dans l'extrême majorité des cas, une ville est un bidonville qui a réussi. Donc ça, c'est effectivement aussi quelque chose comme une évidence donc on ne fait pas d'histoire. La mémoire est effacée, on ne porte pas au présent d'attention à ce qui a lieu, et alors que dire quant à l'imagination, c'est-à-dire qu'on ne prévoit rien, on ne risque rien, et on ne se porte auprès de rien de ce qui s'invente, et donc c'est le désastre que vous, effectivement, décriviez tout à l'heure, et ce réduit dans lequel nous vivons.
Est-ce qu'on peut dresser un parallèle, Jeanne Lingard, entre ce que décrit Sébastien Thierry, et ce que vous constatez, vous, sur les ZAD, ces zones d'aménagement qui différaient?
Alors, déménager... ZAD, voilà, signifie zone d'aménagement différée. C'était la ZAD qui avait été dessinée par l'État dans les années 70, les 1225 hectares réservés pour construire un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Et par extension, c'est devenu aujourd'hui une enseigne politique, les zones à défendre, donc des zones d'occupation. Et effectivement, je pense que il y a au moins un point commun entre les ZAD qui se sont développées en France. La plus grande et la plus connue est celle de Notre-Dame-des-Landes, mais il y en a une également dans la forêt de Chambaran, près de Grenoble, qui est une zone de résistance contre un projet de Center Park. Il y en a une dans le Tarn également, qui elle s'oppose à un projet d'extension de zones comment ça s'appelle, de ZAC. Il y en a qui se sont déjà refermés. Enfin voilà, donc c'est une forme d'occupation de l'espace. Le point commun, c'est que ce sont des lieux de vie. Et que par définition, à partir du moment où des gens commencent à s'installer et à vivre, et sur la durée, c'est-à-dire que concernant la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est une zone qui existe depuis 2009. Donc au départ, toute petite, avec très peu de personnes, quelques occupations de fermes. Et puis à partir de 2012, vraiment une arrivée plus massive de militants. Aujourd'hui, on estime on dit quelques centaines de personnes. En réalité, c'est très fluctuant en fonction des mobilisations. Là, en ce moment, c'est un moment plutôt de remobilisation contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Donc plus de gens sont là. Mais donc le point commun, c'est un lieu de vie. Et donc ce sont des sociétés alternatives. Après, là où je pense il faut toujours faire attention, et en particulier quand on est journaliste, parce qu'on est extérieur et on vient à des moments, donc on fait des coups de sonde finalement, quelque part, dans ces lieux. Donc on a une vision à la fois extérieure, partielle, biaisée. Donc voilà, c'est... Parce que je dis ça parce que c'est pas par démagogie, c'est parce que moi, il me semble vraiment observer, et j'imagine que c'est peut-être pareil à Calais, une très grande diversité à la fois de profils de personnes qui vivent là-bas, de types de vie, de rapport aussi à la ville. Pour certains, c'est une manière de s'écarter un petit peu pendant quelques mois ou même quelques semaines de leur vie en ville, du monde du travail ou du monde du non-travail. C'est aussi pour certains une zone de repli, un endroit où on se ressource. Pour d'autres, c'est un endroit de lutte confrontationnelle avec l'État, avec les forces de l'ordre. Et donc là, c'est la question de la barricade, de tenir des barricades sur des routes, des chicanes, etc. Pour d'autres, c'est un lieu de vie. Donc c'est faire sa vie sur place. Il y a par exemple, il y a des familles. Il y a quelques familles sur la ZAD. Il y a quelques enfants. Il y a un endroit pour les enfants qui s'est récemment créé et qui sont dans l'idée, là, pour le coup, vraiment de sociétés alternatives où les enfants sont éduqués à la maison. Donc je veux dire, il y a vraiment une pluralité. D'ailleurs, il y a un documentaire qui est sorti récemment qui s'appelle Le Dernier Continent, qui montre un petit peu de cette vie de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et je pense qu'il montre. Il y a aussi des gens qui viennent, pas tellement pour des raisons politiques, qui viennent vivre autre chose, plus ou moins en lien avec la nature, et que de ce point de vue-là, il y a tout un monde, quoi, avec une forme de cosmopolitisme aussi, beaucoup d'internationaux.
Je faisais le lien, peut-être un peu osé, dans cette introduction à cette partie de l'émission, avec ce qui se passait sur le Larzac il y a 40 ans. Alors, sans faire la comparaison terme à terme, mais c'était pas la même chose, c'était pas la même époque, c'était pas les mêmes choses qui se jouaient là. Est-ce que le fait même que on occupe un lieu et qu'on voit d'autres type d'idées, une formidable inventivité, un formidable acharnement pour obtenir ce qu'on veut là, vous permet à vous de dire oui, on peut retrouver des choses. Qu'est-ce qui se joue derrière l'occupation des lieux en termes politiques? Est-ce que vous avez l'impression de rejouer la même chose?
Sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, il y a clairement des liens avec le mouvement du Larzac. Derrière, il y a des personnes qui sont en commun entre le mouvement d'occupation du Larzac et l'opposition à l'aéroport aujourd'hui. Il y a en commun la défense d'un espace rural. Donc il y a un lien avec les mouvements paysans, alors qui était beaucoup plus important au Larzac, qui a été dans un premier temps très distendu à Notre-Dame-des-Landes. Et là, les liens sont en train un peu de se renforcer. Donc finalement, la dimension un peu Larzac est plus forte. Il y a quand même une esthétique paysagère, si je puis me permettre, qui n'a rien à voir, parce que la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est vraiment un monde de boue. C'est un monde de boue, d'humidité, de lacs, c'est une zone humide et c'est pas rien. C'est-à-dire que c'est des gens, y compris, qui doivent, pour ceux qui ont des projets d'agroécologie par exemple, qui sont nombreux sur la ZAD, qui doivent apprendre à cultiver dans une terre imbibée d'eau. Donc c'est y compris, je veux dire, en termes d'innovation, de culture agricole, c'est une autre aventure. Et je dirais, je pense que cette comparaison faite, il y a énormément de différences. Un contexte politique est complètement différent. On a, à l'époque, il y avait une vision quand même très utopiste, très idéale d'une autre société possible. Là, il y a une dimension, me semble-t-il, plus résistante, plus confrontationnelle. Il y a un rapport à l'État qui est parfois extrêmement difficile, avec des heurts qui sont parfois très conflictuels. Et peut-être que, enfin, à la limite, on peut peut-être dire ça un petit peu après. après, il y a une part qui, je pense, est très importante, c'est la question du savoir-faire et de récupérer un savoir-faire. Et ça, on trouve, par exemple, dans le récit de ce livre qui s'appelle « Constellation », qui a écrit par le collectif Mauvaise Troupe, qui vient de publier un autre petit livre qui s'appelle Défendre la ZAD. Ils expliquent, en fait, eux, c'est des habitants des ZAD, et ils expliquent pourquoi ils font ça. Et il me semble que l'un des points vraiment saillants de leur discours, c'est de dire, on veut réapprendre à faire. On veut réapprendre à cultiver des légumes, on veut réapprendre à fabriquer notre propre alimentation, on veut réapprendre à construire nos propres maisons, et que là-dedans, il y a une volonté très forte et qui, à mon avis, commune à plein de ses habitants, d'en finir avec la délégation, la médiation, de refaire soi-même, et pas simplement pour se protéger de la pollution, ou pas simplement parce que c'est bon pour sa santé, mais parce que c'est une question vraiment politique. C'est là où ça rejoint, je pense, votre question de départ. C'est une question politique, la réappropriation de sa propre vie, avec une dimension d'autonomie, au sens se réapproprier, reprendre du pouvoir, repenser complètement les catégories, par exemple, entre les personnes. Et ben, moi, par exemple, j'arrête là, la première fois que je suis allée sur une ZAD, on m'a proposé d'aider à construire une charpente. Et donc, j'ai dit, je suis vraiment pas la bonne personne. Et on m'a dit, mais si, justement, c'est parce que tu vas faire avec nous.
Sébastien Thierry, autonomie, résistance, société alternative, vivre les choses autrement, se réengager politiquement, la comparaison avec le Larzac il y a 40 ans, elle tient pour Calais, est-ce qui se passe là-bas ou pas?
C'est complexe. C'est effectivement ce qui tient, c'est peut-être cette coprésence de corps et le fait de faire place, est-ce qui effectivement contraint les acteurs publics à déplacer. Je veux dire qu'il y a toujours cette nécessité-là de faire en sorte que ça n'existe pas. Donc effectivement, nous faisons place par des corps en coprésence qui, de facto, font de la politique en prenant le verbe au sens littéral du terme. Effectivement, faire de la politique. Qu'est-ce que c'est effectivement se retrouver.
Agir, quoi.
Oui, agir, mais après, voilà. Donc après, il y a toute une part de fétichisme un tout petit peu discutable, et pour le moins sur effectivement des formes d'alternatives. À Calais, c'est assez manifeste, les personnes ne sont pas là portant le drapeau d'un nouveau monde en train de s'inventer. Néanmoins, effectivement, de facto, quelque chose s'invente qui n'est pas connu. Et c'est aussi, je pense, une vraie, peut-être une distinction avec ce qui se passe que je ne connais
mais
pas.
Mais quand vous dites la solidarité, ça c'est connu. Qu'est-ce qui s'invente qui n'est pas connu? J'arrive pas à comprendre, vous ne me dites pas.
Justement, est-ce qu'on peut se mettre en position de ne pas savoir? Je veux dire que c'est aussi presque une éthique politique que qu'on ne rencontre plus chez les acteurs publics. Tout le monde sait. Tout le monde sait que c'est le conteneur, que c'est dégueulasse, ou que c'est la faute d'un tel, ou que... Non, est-ce qu'on peut se mettre en position de ne pas savoir et d'accompagner dans le brouillard, dans ce vide-là de ce qui s'invente, accompagner ce qui effectivement est productrice d'autre chose qui n'est pas effectivement la cité désirée par ces migrants qui éventuellement veulent vivre ailleurs qu'ici même, qui n'est pas la cité désirée par les Calaisiens qui, on peut le comprendre, sont largement exaspérés par cela, etc., etc. Néanmoins, à l'ombre de tout. Tous ces discours, de toutes ces représentations, nous traquons quelque chose qui effectivement relève d'une urbanité qui n'a pas encore été repérée comme telle, et dont il va falloir qu'on modifie les outils de lecture de cela, et modifier effectivement les outils permettant d'accompagner ceci. Nous ne savons pas, partons de ce premier principe, et essayons de trouver les acteurs publics qui sont prêts à nous accompagner en disant « je ne sais pas ».
France Culture, La Grande Table, Caroline Brouet.
Calais, Notre-Dame-des-Landes, les nouveaux lieux du politique. Nos deux invités aujourd'hui sont Sébastien Thierry, qui est politologue et coordinateur des actions du Pérou, le pôle d'exploration des ressources urbaines, et Jade Lingard, qui est journaliste à Mediapart. Une question d'Antoine Mercier.
Oui, je voudrais faire une suggestion, peut-être, si on pouvait distinguer la réalité, peut-être, de la métaphore de ce qui se passe politiquement sur ces lieux. La réalité, bon, la boue, le brouillard, elle peut quand même difficilement prétendre à être quelque chose qui servirait de modèle à quoi que ce soit. En revanche, effectivement, on distingue dans le geste de réappropriation des choses, de ressaisissement de la réalité qu'on semble avoir perdue dans nos sociétés, peut-être quelque chose qui fait signe politiquement, au-delà même de ce qui se passe effectivement aussi concrètement dans ce que vous parlez de la solidarité, de l'urbanité. Ce que je veux dire, est-ce que ce qui se passe sur ces lieux, et notamment à Calais, est un signe aussi pour la société qui l'entoure? Est-ce que vous verrez ça comme ça? C'est-à-dire que ça peut nous apprendre quelque chose, comme vous allez sembler vouloir le dire.
Oui, Sébastien Thierry.
Oui. Effectivement, ça c'est un peu malheureux de le dire, mais Calais est une ville dévastée. On a travaillé beaucoup à Ris-Orangis, que je connais un peu mieux du coup, puisqu'on a travaillé pendant 2 ans à Ris-Orangis dans un bidonville. Effectivement, la place publique la plus prodigieuse à Ris-Orangis était ce bidonville que l'on occupait, dans lequel on a construit et dans lequel se sont passées d'innombrables effectivement choses que la place publique de Ris-Orangis, produite par des urbanistes invraisemblables, était morte, mortifère et invraisemblable. Bon. Donc effectivement, on en apprend par le négatif un certain nombre de bah, peut-être effectivement de qualités perdues,
De liens sociaux, de vie, d'espace partagé, c'est ça ?
Voilà. Et je dirais, il y a de l'obscénité à dire un certain nombre de mots. J'ai été repris par quelqu'un de joie. On fait l'amour, tiens. On m'a dit non, il font l'amour, il y a effectivement la question des femmes se pose absolument vrai, mais on fait l'amour aussi dans la jungle, on joue aussi, et ce qui est assez frappant d'ailleurs, il y avait des étudiants qui étaient avec nous de Grenoble qui interviewaient des migrants sur effectivement quels sont vos lieux de loisirs. Et les migrants semblaient dire, non, mais des lieux de loisirs, j'en ai pas. Une fois que l'interview est finie, la personne allait jouer au foot, etc. Donc il est aussi tellement, tellement difficile de témoigner de cela, y compris pour les migrants eux-mêmes.
Est-ce qu'il y a de la violence ? Est-ce que les femmes aussi sont
à des lieux de vie, hein.
Absolument, c'est une ville avec tout ce qu'il y a. Il y a des armes, vous l'avez vu, il y a effectivement il y a de la violence à l'endroit des femmes, des enfants.
C'est quand même ça qui, effectivement, vous dites, on privilégie c'est ce qui apparaît là, c'est-à-dire ces conditions de vie quand même, sur le plan même sanitaire, qui ne sont pas bonnes, et par ailleurs, des conditions humaines qui ne sont pas non plus
extraordinaires. Mais nous, si le Pérou s'y trouve, c'est qu'effectivement, c'est une situation de crise, une situation critique. Donc on part de ce principe-là. Effectivement, ici même, a lieu un désastre. Et c'est la question, c'est comment on y répond. Et nous, notre position, c'est on y répond à partir de la cartographie de ce qui n'est pas le désastre et de la culture, au sens souvent, comment jardiner ce qui n'est pas le désastre.
À partir de l'indignité des conditions de vie et de ce qui s'y passe en termes de joie, d'amour, ou de tout ce que vous voulez, vous essayez d'inventer autre chose.
Une politique de l'affirmation, bien sûr, effectivement, à partir de ce qui, de ce qui n'est pas le désastre que l'on a l'habitude de décrire et que l'on...
C'est à garder vraiment tout ce qu'il y a de positif ou de beau dans ces endroits-là qui sont d'abord des désastres architecturaux, mais vous en faites pas non plus un modèle de vie. Si.
Mais non, mais par définition, puisque non, par définition, il ne s'agit pas de...
On va faire la prochaine émission là-bas, peut-être, comme ça. On
verra. Oui, il faut... absolument, on devrait y être, et que les auditeurs y aillent en courant. Il faut absolument se saisir de cela. Donc, ça n'est pas pour préserver cela. Encore une fois, je critiquais, beaucoup d'architectes, effectivement, font preuve d'un fétichisme pour une architecture qui serait, vernaculaire, émergente. C'est absolument faux. En plus, les Anglais construisent à tout va, c'est des modules. Enfin, donc c'est bon, quelque chose, effectivement... quelque chose s'invente. À partir de quoi, effectivement, il s'agit de transformer ce qui a lieu, de faire pencher le bidonville vers la ville, de cultiver l'urbanité qui a lieu là. Et il est hors de question, et c'est aussi tous les discours d'assigner à résidence les migrants du bidonville ou les Roms du bidonville. C'est évidemment pas la position du Pérou. C'est comment, effectivement, entrer dans les processus de projection, de transformation, et prendre effectivement le contre-pied absolu des procédures d'éjection et de rejet qui ont lieu aujourd'hui. Donc ça semble tellement être élémentaire. Comment effectivement faire face au réel et en accompagner les promesses malgré tout qui s'y développent et qui s'y affirment.
Enfin, ce sont des questions l'une comme l'autre. D'ailleurs, la question de ce qui se passe avec l'aéroport Notre-Dame-des-Landes d'un côté, ce qui se passe avec la jungle de Calais de l'autre, qui sont extrêmement complexe et où se jouent, je le disais en introduction, deux des plus grands sujets de maintenant et de l'avenir de nos sociétés, à savoir l'écologie d'un côté et la question des migrations de l'autre, avec des positions extrêmement opposées. Et c'est là que c'est difficile d'arriver à repérer ce qui se joue en termes de présence, mais aussi en termes d'avenir, parce que c'est la façon dont on considère l'autre, quelle société on a envie de mener. Il y a l'économie et l'écologie qui s'affrontent dans cette question de Notre-Dame-des-Landes. Il y a l'ouverture et la fermeture des frontières, comment on accueille l'autre, l'hospitalité, mais en même temps la peur, parce que c'est l'insécurité aussi qui règne dans la question de la jungle de Calais. C'est pour ça qu'on avait envie de rapprocher ces deux lieux en termes d'expérience, Jade Lingard.
C'est aussi une question de légitimité. C'est pas que... enfin, il me semble, la lutte contre... Déjà, la lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ne se passe pas que dans la ZAD. Et que cette lutte, le mouvement d'opposition à l'aéroport, de la part notamment de paysans locaux et de certains riverains, a démarré avant la ZAD. La ZAD est arrivée dans un second temps, et on observe aujourd'hui une multiplicité de comités locaux de soutien aux opposants à l'aéroport. Donc, c'est pas exactement correspondant. Ce qui signifie que, évidemment, les gens qui choisissent de venir vivre sur la ZAD, ils s'opposent à l'aéroport, mais la dimension d'opposition à l'aéroport occupe une place plus ou moins importante, finalement, dans leur motivation. Mais il me semble qu'il y a un élément qui est très important et qui est complètement passé sous silence par l'ostracisation, quand même, dont font preuve les habitants de la ZAD, qu'on qualifie de zadistes, avec une espèce d'étiquette comme ça, un peu infamante et homogénéisante, alors qu'en réalité, les situations, encore une fois, des personnes, leurs profils, leurs âges, leurs origines, leurs activités, etc., sont très divers. Mais un des points, il me semble très important de leur présence là-bas et de leur discours, c'est de dire, certes, on occupe, on désobéit, mais on désobéit pas simplement pour désobéir. C'est-à-dire qu'on interroge quelle est la bonne légitimité, qui sont les bons acteurs de décision pour ce que devient un territoire. Et que là, on est en plein dans la politique. C'est-à-dire que on a d'un côté une logique d'organisation du territoire par l'État, donc par le biais des déclarations d'utilité publique, des débats publics, etc. Et ce qui fait dire donc toute la légitimité, je dirais, institutionnelle, qui a conduit à la situation actuelle, à savoir que normalement, en fonction de la logique institutionnelle et des décisions de l'État et des différentes consultations qui ont eu lieu, il faudrait construire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et en face de ça, on a des gens qui disent « Non mais attendez, quelle loi on écoute ?» Est-ce qu'on écoute la logique des déclarations d'utilité publique où l'État est jugé parti, puisque l'État est à la fois porteur du projet et à la fois celui qui décide faut-il faire ou non le projet? Donc à partir du moment où il décide de faire le projet, bah du coup tous les voyants s'allument au vert. Ou est-ce qu'on défend la loi sur l'eau, la biodiversité? Est-ce qu'on défend, d'où l'appel qu'on a publié dans Mediapart, mais l'accord de Paris, les engagements sur le climat, qui sont pas moins légitimes, qui sont également du domaine de l'institution et de la légalité, et qui disent le contraire?
Oui, mais le Graoudre a fait un débat il y a deux jours à Nantes, avec deux pour, deux contre, et effectivement,
et donc,
les arguments étaient ceci.
On n'est pas simplement dans la situation de d'un côté la loi, de l'autre côté les désobéissants, casseurs, anarchistes, qui vont se battre avec la police. Il y a aussi de cette dimension-là, mais il n'y a pas que ça. Et à partir du moment où on veut bien comprendre qu'il y a cet enjeu politique là derrière et qu'il y a cette bataille politique derrière, on voit bien à quel point, eh ben, ça interroge complètement la manière, la vision qu'on a de la démocratie, est-elle uniquement représentative? Qui sont les acteurs? Qui sont les bons acteurs? Et finalement, pourquoi est-ce que les gens qui choisissent depuis des années de vivre dans la boue, dans le froid, dans l'humidité, de tout reconstruire à partir de rien, pourquoi eux, ils n'auraient pas aussi une voix au chapitre sur le devenir de ce territoire?
Dans cet appel dont vous parlez, Jade Lingard, signé par des personnalités aussi différentes, là aussi pluralistes, que Naomi Klein, Jean Jouzel, Virginie Despentes, Pierre Rabhi et Rédi Louka. On lit par exemple cette phrase de Virginie Despentes qui soutient symboliquement les activistes de Notre-Dame-des-Landes, car, dit-elle, leur forme d'action politique est pour moi la seule qui vaille la peine. Ils inventent depuis presque 7 ans une autre façon de vivre ensemble. On retrouve Calais. Ils mènent une expérience alternative à l'ultralibéralisme, ajoute-t-elle, et c'est une aventure qui nous concerne tous. Du moment que le gouvernement a cru bon d'appeler César l'opération menée en 2012 censée déloger les résistants, le gouvernement a fait de Notre-Dame-des-Landes un nouveau village d'Astérix. C'est une des rares bonnes nouvelles politiques de cette décennie. J'ai l'impression de retrouver ce village gaulois, d'ailleurs, dans les deux cas. Voilà, petite parenthèse.
Oui, aussi question justement sur Calais. Est-ce qu'on retrouve cette problématique de la légitimité? À qui doit-on obéir? Quelle est la possibilité pour des gens de s'installer sur une terre qui n'est pas forcément effectivement la leur?
Il y a le Sébastien Thierry.
Paradoxe instituant qui est effectivement la jungle est d'abord un espace toléré par le gouvernement, qui a fait dire à certains intellectuels que c'était un bidonville Cazeneuve ou un bidonville d'État, aujourd'hui effectivement est devenu intolérable. Donc le rapport et la relation à l'institution se jouent de manière complexe et au gré des vents des positions de cette institution-là. Je pense qu'il y a quand même quelque chose à ne pas louper. C'est ce qui effectivement ne reproduit pas l'incessante opposition effectivement entre la loi, l'alternative, etc. Un exemple juste très concret, Zimaco Jones, d'ailleurs ça me permet, c'est le 6 février, qui est un migrant, d'immigrants nigérians, qui a construit une école dans la partie sud, la fameuse qui va être rasée, l'école du chemin des dunes, l'école laïque du chemin des dunes. Zimaco est le jour même de l'inauguration, qui est le 6 février. Le rectorat affecte 3 postes effectivement pour suivre effectivement les enfants qui vont être accueillis dans cette école. Ça, c'est extrêmement important. Premier point, juste pour rappeler que le 6, il y avait 150 fous furieux allumés, décérébrés, qui manifestaient à Calais sous l'égide de Pegida, et ça a valu 150 une de 150 journaux. L'école qui était créée effectivement et qui faisait qui était créée par Zimaco, il y a eu 2 ou 3 entrefilés. Quel est, donc, premier point, cette fascination du pire qui est la nôtre et qui fait qu'on est capable de faire des feuilles de choux et des feuilles de choux sur ces 150 manifestants et non pas sur cette école qui se fondait là. Par ailleurs, deuxième point, c'est effectivement cette compromission, c'est-à-dire que justement, sortons de cette incessante opposition entre ce qui est de l'ordre de la loi et ce qui est de l'ordre de l'opposition, etc. Zimaco construit une école. Peut-être qu'il a entendu, sans l'avoir lu, le code civil nous oblige, qui nous indique qu'il est bon de créer, de concevoir des écoles. Donc Zimaco, effectivement, concevant une école laïque, l'école des dunes, du chemin des dunes.
Mais ça peut être bizarre, pardon. Sébastien Thierry, oui. De vous interrompre, ça peut paraître bizarre dans un lieu qui n'est pas destiné à durer. C'est-à-dire que les réfugiés, les migrants qui arrivent là, ne souhaitent pas rester dans ce lieu-là. C'est extrêmement paradoxal de construire une école. Même si vous dites que c'est un lieu de vie et que dans un lieu de vie, on doit vivre et que les enfants, on préfère qu'ils aillent à l'école, bien sûr, mais c'est, vous voyez, c'est très très bizarre.
Non, je ne vois pas, je ne comprends, je commence à ne plus comprendre qu'on trouve ça bizarre. Je commence à non, parce que il y a une phrase au Pérou qui est, quelle que soit la situation dans laquelle on travaille, c'est ailleurs commence ici, qu'on a chopé à Depardon et à Virilio. Ailleurs commence ici. Faites-en l'expérience vous-même, vous habitez quelque part, peut-être que vous n'avez pas vocation, comme dirait l'autre, à rester à cet endroit-là. Vous prenez soin de ce quelque part aussi, de votre vie aujourd'hui, pour inventer un ailleurs et pour partir ailleurs. Ça, c'est l'histoire de l'humanité, et c'est la vôtre, et c'est la nôtre, donc comment prendre soin de l'ici, effectivement, pour s'inventer un ailleurs. Ça n'est effectivement que la... C'est de l'ordre d'une telle évidence, quoi. Et pourquoi on ne comprend pas ça?
Jeanne Lingard.
Il y a des liens militants entre toutes les mobilisations à Calais et la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Parce que la dernière fois que j'y étais, début janvier, il y avait des personnes sur la ZAD qui revenaient de Calais, où ils avaient tenu des cuisines. Et ça permet d'aborder cette question de la cuisine qui, à mon avis, est assez significative aussi de ce que sont ces mouvements, c'est-à-dire des mouvements à la fois, au fond, très simples, très pragmatiques, et en même temps très dans une forme de partage et d'itinérance. Et donc l'idée avec une dimension d'entraide. Alors on va faire des cuisines, donc il y a toute une série de cuisines militantes qui soit vont sur des lieux militants, des campements, des choses comme ça, mais qui donc vont aussi à Calais, distribuer de la nourriture aux migrants qui, quand même, pour certains, à un moment, étaient au bord de crever de faim. Enfin, c'était quand même une situation humanitaire. Donc là, on est quasiment dans une situation humanitaire complètement déplorable. Heureusement, ça s'est un peu amélioré aujourd'hui, mais donc il y avait une espèce d'urgence. Et donc, qui partagent à la fois leurs pratiques, c'est des formes de socialisation, et ce sont des formes d'entraide. Et le fait qu'il y ait comme ça des circulations, à mon avis, répond aussi à ce que vous demandez au début, Caroline, à savoir, voilà, les liens entre ça, oui, il y a des liens entre les personnes, quoi, déjà. Et pour beaucoup de très jeunes, de jeunes activistes, de jeunes militants, et ils découvrent aussi une forme de militantisme à travers le fait de faire à manger pour les autres, ce qui est vraiment la base du soin, quelque part, de prendre soin de l'autre.
Sébastien Thierry.
Oui, et combien de Calaisiens, au-delà, certes, de Notre-Dame-des-Landes, mais combien de Calaisiens, Antoine Aignon, mon camarade avec lequel nous écrivons cette tribune aujourd'hui dans Libé, enquête, lui, sur Calais, Calais-Ville, et combien d'associations reçoivent des demandes d'engagement, de bénévolat, combien de Calaisiens dans le quotidien, dans le détail du quotidien, portent des gestes, une attention, un regard, des paroles, etc., qui sont tellement aux antipodes de ce que l'on raconte de cette ville qui serait censée effectivement être bientôt sombrer dans le racisme le plus indien, etc. Prêtons attention à ça aussi, à ce qui s'invente à Calais, parce que la jungle est à Calais, parce que les relations sont constituées, effectivement, bon gré mal gré, je dirais, des gens qui votent Front National et qui, dans le quotidien, effectivement, de leur existence à Calais, ont des relations qui sont bien au-delà de ce qu'on peut imaginer du fait qu'ils votent Front National. Donc comment... Ça, c'est absolument crucial, ce sont des détails, tout le monde se fout de cela. cela, comment effectivement en prendre soin, comment faire entendre, faire voir et raconter cela. Et c'est à partir de cela qu'on inventera une autre politique.
Donc c'est l'imagination au pouvoir, là aussi ça nous ramène quelques années en arrière, mais sans l'idéologie. C'est ça.
Avec une autre vision du monde.
Avec une autre vision du monde. Merci à tous les deux.
Merci.
Sébastien Thierry et Jade Lingard d'être venus aujourd'hui au micro de La Grande Table. La Grande Table, c'est Raphaël Bourgois, Clémence Marie, Jeanne Aléos, Henri Leblanc, Antoine Sims. À la réalisation aujourd'hui, c'était Philippe Baudouin. À la prise de son, Stéphane Poitvin. Bientôt, Louise Touret, la fête, donc l'émission de Louise Touret, rue des Écoles, a consacré une émission à cette école de la jungle de Calais. C'était il y a très très peu de temps, le 21 février. Enfin, vous retrouverez tout ça sur le site internet. Merci beaucoup à tous.